Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grenouille. Merci Jérôme Rico, belle prestation. Je précise, c'était des tongs du 42-43 qu'on est à Marimira. En ce moment, on est juste en bas du Napoléon Bonaparte qui est garé juste là derrière les palissades. On est jeudi 4 octobre, il est environ 17h. Cette émission est diffusée dimanche 7 octobre à 10h. Alors on suit Marimira, les pas perdus depuis fin août, depuis qu'ils sont installés sur le J4. Vous avez déjà pu entendre de quelques programmes consacrés à Marimira ou autour de Marimira. Et pas plus tard que lundi dernier, on était à la Foire internationale de Marseille où les Papes perdus tenaient un stand de tuning d'appartements. On a réalisé une émission depuis là-bas qui a été diffusée mardi. Et là, ce soir, cet après-midi et ce matin pour la diffusion, On a répondu à l'invitation des pas perdus en fait qui souhaitaient parler depuis Marimira, se faire l'écho depuis Marimira d'un livre qui sort signé Marc Rosmini qui est un philosophe, il enseigne au lycée de Martigues, qui a écrit un livre qui s'appelle Marseille révélé par l'art contemporain avec un sous-titre qui est légende, cliché et recyclage. Donc parler d'art contemporain depuis Marimira. Et cette invitation nous a donné l'envie aussi d'inviter d'autres gens pour aborder des questions. C'est des questions de frontières en fait qui sont abordées dans ce livre, des questions entre haute et basse culture, entre l'art et la vie, entre le local et le global, entre les arts majeurs et les arts mineurs. Ça nous semblait intéressant depuis Marimira d'aborder toutes ces questions avec un peu de monde. Donc il y a Brice Mathieu-Sang qui est avec nous. Alors Brice Mathieu-Sang, il est là aussi parce qu'il a fait un livre qui est sorti aux éditions de l'Œil l'année dernière, en 2006, ce livre-là consacré à Marimira. Donc on en dira quelques mots pour commencer cette émission, mais il y a aussi avec nous les artistes Pascal Stott et Claude Kerel, Sylvie Reynaud, Marc Rosmini, donc l'auteur de Marseille révélé par l'art contemporain, Pascal Neveu, directeur du FRAC, Guy-André Lagesse des Pas Perdus et Olivier Bedu du Cabanon Vertical. Alors Brice Mathieu-Sang, Marimira, c'est un bon endroit pour discuter. Vous dites dans votre livre que c'est avant tout un lieu de parole, Marimira.
Ah oui, c'est un lieu de parole, oui. On est là pour ça d'ailleurs, ouais. Non, on est là pour parler de Marimira, mais je pense que ça passe parce qu'il y a des guides aussi, il y a des gens qui racontent des histoires, et donc ils font des visites qui sont chacune individualisées et pas du tout normées. Et donc, oui, c'est un lieu de parole pour les gens qui visitent. Et puis, je pense que c'est aussi un lieu de débat. Je crois qu'il y a des projets aussi au Pas Perdu concernant des discussions, une bibliothèque, de monter. Il y a une chorale aussi, donc il y a aussi des activités qui sont liées à la voix. Et je pense aussi qu'il y a une qui vient d'Afrique du Sud. Il y a une petite cabine, alors c'est pas la commission vérité et réconciliation, mais c'est une autre commission. Et donc plus on c'est diffusé évidemment à l'intérieur de la maison d'Afrique du Sud, de Durban, là-bas, qu'on voit ici, enfin que vous ne voyez pas quand vous écoutez la radio, mais que nous on voit, et qui fait aussi qu'il y a une lumière au plafond, enfin tout un ensemble de lumières qui brillent de plus en plus, pourvu que les gens parlent de plus en plus. Donc il y a un rapport à l'oralité, et je pense que l'oralité, c'est aussi quelque chose qui va contre la chose figée, et je crois que c'est quelque chose qui caractérise bien l'esprit de Marimira, c'est-à-dire toujours en mouvement, toujours en évolution, depuis des années, mais même à une échelle plus réduite. Au J4, les choses changent. Moi, j'arrive là. Il y a encore des choses qui ont changé. L'instrument dont jouait Jérôme Rigaud tout à l'heure, je ne l'avais pas vu. Donc, je crois qu'il y a des choses sans arrêt qui sont en évolution et l'œuvre n'est jamais terminée.
D'où la gageure d'écrire un livre sur Marimira ?
Ben oui, moi, j'ai écrit un livre. En plus, je ne suis pas allé dans toutes les étapes de Marimira. J'ai vu Marimira à Marseille, c'était quand ? 94 ? 15 ? 96 ? Je l'ai vu à Paris. J'ai vu des images. Mais je ne l'ai pas vu à Durban en Afrique du Sud et je ne l'ai pas vu non plus aux îles Fidji. Mais j'étais en contact avec Guy-André et les autres. Et donc je suis quand même un peu au courant, oui, par les ondes. Par les ondes.
Vous forgez un néologisme dans votre livre. Vous dites que Marimira, c'est un multivers.
C'est pas moi l'inventeur du terme. C'est pas moi l'inventeur du terme, non. J'ai repris ça à des critiques littéraires, en fait, qui parlaient d'univers romanesque. Mais je pense qu'en effet, il y a plusieurs choses qui rentrent en collision et qui, en même temps, sont organisées de manière assez harmonieuse, avec un esprit commun. Mais c'est forcément un multivers, parce qu'il n'y a pas que Guy-André Lagesse, il y a aussi énormément d'autres intervenants. J'ai parlé des guides là tout à l'heure, mais on pourrait parler aussi de tous les artistes de chaque endroit qui ont participé à l'élaboration de Marie Mira. Et dans chaque endroit, l'idée, c'est de trouver des collaborateurs, de trouver des pas forcément des artistes au sens occidental du terme. Hein. Donc ça pose aussi le problème du rapport à l'extra-occidental. Mais je crois qu'il y a ça qui est aussi au cœur de Marie Mira, c'est-à-dire le fait que il y a beaucoup de gens qui sont intervenus, qui continuent d'intervenir et qui font qu'il y a des univers comme ça qui entrent en collision douce. C'est peut-être l'idée de la collision douce.
Alors, quand on fréquente les expositions d'art contemporain de façon assez régulière, on a comme ça une sorte de background qui accompagne tout ça. Quand on arrive à Marie Mira, ce qui est frappant, c'est qu'on est un peu perdu, un peu paumé. On dit, oulala, où sont les références? Et vous, dans votre livre, Brice Mathieu-Sand, sur Marie Mira, il y a une référence qui court tout au long. C'est la référence à Beuys et à son projet de sculpture sociale.
Oui, ça me paraissait assez évident, c'est-à-dire le projet de tuning d'appartement va aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire la sculpture sociale, c'est évidemment pas que de la sculpture, c'est de la parole. Pour Beuys, c'était aussi de la parole avant tout, c'était un échange, c'était une discussion, c'était l'idée du débat, c'était l'idée de pouvoir discuter des choses importantes, soit en groupe, soit en tête-à-tête. Et je crois que cette idée de sculpture sociale, elle est très pertinente pour Marie Mira et aussi pour le tuning d'appartement. C'est-à-dire que ce sont des gens qui habitent, je fais juste une petite parenthèse sur le tuning d'appartement, ce sont des gens qui habitent dans le quartier de la Belle de Mai, ici à Marseille, et qui jettent leurs meubles dans la rue parce que les meubles se cassent et puis il n'y a plus d'usage pour cette chose-là. Et donc l'idée, c'est de rencontrer les gens et d'essayer, pas simplement de faire de la rénovation et de planter trois clous, mais d'essayer d'inventer des fonctionnalités nouvelles. Et donc de réfléchir avec les gens sur la conception un peu utopique et au niveau d'un seul exemplaire à chaque fois. Hein. Pas du tout de créer une chaîne de production de mobilier ou de choses comme ça, mais de réfléchir sur un usage qui soit peut-être plus poétique et qui induise un changement de comportement à l'intérieur des espaces plutôt normés de l'habitat. Je crois que c'est Beuys qui disait... était furieux contre la tyrannie de l'angle droit dans l'architecture, par exemple. Il y a des textes de Beuys là-dessus. Et je pense que ça participe aussi de cette chose-là, c'est-à-dire essayer de refonder à un niveau très pratique, très concret, mais de refonder des choses concernant le quotidien. Je crois que c'est important, ça, ouais, le quotidien. Oui.
Beuys disait aussi, vous le rappelez dans ce livre, « Tout le monde est artiste ».
Oui, il a dit ça, mais... Je ne sais pas s'il faut y croire. Oui. Je ne sais pas s'il faut vraiment ressortir cette chose, cette espèce de vieille scie qu'on trouve toujours à propos de Beuys, qui fait partie des années 70 et de cette grande période utopique où les déclarations des artistes ressemblaient à des manifestes utopiques. Kippenberger disait le contraire. Il disait tous les artistes sont des hommes. Et je trouve que c'est très juste aussi. Hein.
Guy-André, cette référence à Beuys, toi, comment tu la prends, cette idée de sculpture? Il y a un micro là, si tu veux. Sculpture. Renverser les verres d'eau au milieu des câbles électriques, c'est moyen. C'est moyen. Mais ça devrait passer.
À peu près ça.
Voilà.
À peu près
pour ça. L'instant, personne n'est électrocuté. Quoi.
Moi, j'aime bien les angles droits. Je trouve que c'est formidable.
Est-ce que toi, tu as des références ce travail que tu développes au sein de Marie Mira, est-ce qu'il t'est inspiré par d'autres artistes qui auraient défriché...
Ah, mais c'est que le travail des autres, là.
Oui, mais qui auraient défriché ce terrain-là avant Marie Mira.
Pardon ?
Qui auraient défriché ce terrain-là avant Marie Mira.
Tellement de gens, quoi. Mmh. Tellement de gens. Non, tellement de gens. Moi, j'ai l'impression que de toute manière, tout ce qu'on fait est rempli du travail des autres. Mais que ce soit le joueur de violon au coin de la rue, César, ou j'en sais rien, ou Giotto, ou... ou la voilà, non, je veux dire, bien sûr, ou le bricoleur du dimanche, bien sûr, tout ça, c'est ça rend, mais je pense que tout le monde ici, c'est un peu ça, c'est-à-dire que finalement on est ouvert peut-être à tous ces paramètres qui sont extra en dehors de l'art, quoi. Je veux dire, à la fois dedans et à la fois tout ce qui est à l'extérieur et qui est intéressant, le mazout sur l'eau, le je sais pas, beaucoup de choses, quoi. Je veux dire, ici, non, je parle de mazout sur l'eau parce qu'à chaque fois qu'il y a le vent ici, le Mistral, comme on est sur le port, c'est-à-dire que ça inonde ici et ça inonde de mazout aussi. Donc on a une espèce de couche qui fait un peu iriser surtout. C'est très joli.
Alors Marc Rosmini, auteur de Marseille révélée par l'art contemporain. Bon, on le voit, les références culturelles des artistes, comme de tout le monde, mélangent souvent les références de ce qu'on appelle la haute culture et la basse culture, le high et le low. Ce que Bernard Lahire, le sociologue là, qui a écrit un livre qui est sorti l'année dernière, je crois, nomme comme étant quelque chose qui s'appellerait la dissonance culturelle, que chacun porte en soi un plus ou moins grand niveau. Donc cette dissonance culturelle et la façon dont elle résonne pour toi à Marseille, c'est l'un des moteurs de ton livre, je crois.
Ah oui, complètement. C'est un moteur d'abord parce que je pense qu'à Marseille, cette dissonance, elle est particulièrement vivante pour beaucoup d'entre nous parce que c'est une ville quand même populaire malgré tout. On est nombreux en tout cas à être issus de milieux très populaires, j'en fais partie. Et à la fois parmi certains d'entre nous, eh bien, il y en a qui ont accédé à une culture un peu plus savante, à l'université, etc. Et je crois qu'on vit cette dissonance de manière assez particulière. Je crois que dans la ville et dans le travail des artistes, c'était mon hypothèse de base, hein, on allait retrouver justement des œuvres dans leur diversité, parce qu'elles sont très diverses, dans lesquelles on va retrouver ce jeu qui se joue aussi en chacun de nous, qui se joue à l'échelle de la ville et qui va se jouer dans les œuvres, effectivement, entre le populaire et le savant, entre guillemets, entre le légitime et le moins légitime. Et c'est vrai que c'est vraiment un des axes majeurs de mon livre et de la réflexion qui a été la mienne. Ouais.
Alors, cette dissonance culturelle, tu la mets en jeu dans cette ville de Marseille en allant en compte de certains travaux d'artistes, dont ceux de Stott et Kerel ou de Sylvie Reynaud, mais il y a ceux aussi de Judith Cayolle et Claude Bartolani.
Judith Bartolani et Claude Cayolle.
Voilà.
Du temps où ils travaillaient ensemble.
De Richard Bacquier, de Christophe Pollard, j'en oublie, voilà. Mais tu vas aussi voir du côté de la cuisine et du football.
Ah oui, de la cuisine et du football. Bon, d'abord parce que moi, j'aime bien parler de ce que j'aime et j'aime bien, dans mes cours, c'est pareil, quand je fais des cours de philo, j'aime parler de ce que j'aime, je trouve qu'on est toujours meilleur. Et d'abord, la cuisine et le football, tout simplement, ça me plaît. Ça fait partie aussi de mon identité marseillaise, latine, donc d'enfant, quoi. Ça, je ne l'ai pas inventé. Ce n'est pas un truc que je dis pour faire chic, juste pour jouer justement la dissonance. C'est des trucs de gamin, ça. J'ai cette passion-là. Et donc, j'ai cherché effectivement aussi, à Marseille, des artistes ou des œuvres qui pouvaient jouer sur ces clichés, ces mythes marseillais qui peuvent être la bouillabaisse ou l'Olympique de Marseille. Et donc, pour la bouillabaisse, effectivement, je me suis dit, il ne faut pas seulement aller chercher du côté des arts plastiques, mais du côté des cuisiniers aussi. Et donc, je me suis interrogé sur la question de la limite entre ce qui est de l'art et ce qui n'en est pas, en essayant de parler de la bouillabaisse de deux cuisiniers marseillais, qui sont des bouillabaisses originales, déconstruites, reconstruites, comme on parle des œuvres d'art. Alors, je ne sais pas si c'est réussi ou pas, je ne sais pas si c'est convaincant, mais bon, c'est un essai au sens strict du terme, quoi.
Et tout ça, en fait, ça travaille les questions ou ça amène les questions, alors que je remets en jeu ici, là, dans cette discussion, c'est y a-t-il des arts majeurs et des arts mineurs ? Quelle distinction, par exemple, toi, quelle distinction tu ferais entre arts majeurs et arts mineurs ?
C'est une grande question. Là. Bon, je ne peux pas y répondre en deux minutes. Bon, moi, je ne suis pas un pur relativiste, quoi. De même que je ne pense pas que tout homme est un artiste. Je ne pense pas que tout se vaut. Et je pense qu'on peut essayer d'établir des hiérarchies. Mais bon, les hiérarchies, elles dépendent avant tout du regard qu'on porte sur les choses. Elles dépendent aussi de l'intention du créateur. Et donc, c'est ce que je dis dans le bouquin. Ce n'est pas parce que je parle de choses très différentes que je les mets toutes aussi sur le même plan. Moi, l'hypothèse que j'ai faite aussi, c'est que la richesse d'une œuvre, elle dépend en partie de l'intention du créateur, en partie du regard. Bon, c'est le vieux cliché aussi, mais bon, ce sont les regardeurs qui font les tableaux, ce sont les mangeurs qui font les bouillabaisses, ce sont les... Voilà, donc il y a toujours une part d'interprétation. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce jeu sur le majeur et le mineur aussi, c'est que, et ça aussi, c'est la variation sur un vieux thème, mais une variation phocéenne, en l'occurrence, c'est cette idée de l'art qui révèle le monde, en quelque sorte, c'est-à-dire qui nous rend plus attentifs. Et il me semble que quand on fait l'effort d'être plus attentif aux œuvres d'art, eh bien, on est aussi plus attentif à la vie. Et même en écrivant ce livre, d'une certaine manière, mon attention esthétique et interprétative au monde lui-même, bon, au monde de Marseille et puis ailleurs, bien entendu, eh bien, cette attention, elle a été encore cultivée. C'est ce que j'ai essayé de transmettre au lecteur, quoi. C'est soyons plus attentifs, soyons plus interprétatifs aussi, interrogeons-nous, prenons le temps de regarder les choses, nous interroger sur elles. Et d'une certaine façon, ouais, c'est peut-être la leçon de l'art aussi, quoi. C'est de modifier notre regard sur le monde. Donc finalement, il y a voir la ville aussi et voir la vie comme une œuvre d'art, quoi.
Pascal Neveu, vous dirigez le FRAC, le Fonds Régional d'Art Contemporain, depuis quelques mois. Alors, bon, une question voisine. Est-ce qu'il faut établir des hiérarchies dans le domaine de l'art et à quoi ça sert?
Bonjour. Non, je crois effectivement qu'il y a toujours besoin de faire de hiérarchiser, mais c'est un syndrome récurrent. À chaque fois, on cherche à vouloir absolument référencer, hiérarchiser art majeur, art mineur, pour expliquer ou pour classer telle démarche artistique, telle attitude. Je crois qu'effectivement, c'est cette grande diversité qui fait l'intérêt d'une scène artistique, d'une ville comme Marseille, c'est justement d'avoir des pratiques extrêmement hétérogènes et sans être forcément sur une valeur ni marchand, ni qualitative, ni un hit parade de ce qui serait le top du top et de ce qui pourrait être qualifié de très très mineur. Donc après, effectivement, chacun a ses hiérarchies, chacun a ses critères et ça reste très subjectif.
Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose sur cette question? Non? Oui, sur les hiérarchies. Non, mais je peux continuer avec Pascal Neveu, si vous voulez. Est-ce qu'il y a des œuvres qui sont plus pertinentes que d'autres?
Ah, c'est l'interrogatoire.
c'est le livre de Marc Rosmini qui invite à ce genre de questions.
Des œuvres plus pertinentes que d'autres. Derrière des œuvres, il y a des artistes, donc il y a certainement des artistes meilleurs que d'autres aussi, mais c'est comme partout, il y a des bons cuisiniers et des mauvais cuisiniers.
Comment on peut
évaluer
objectivement ça, la pertinence d'une œuvre d'art ?
On peut absolument pas. Il n'y a aucun critère objectif en matière d'art. En fait, on est sur de la subjectivité, on est sur des positionnements personnels, on est sur des critères esthétiques qui dépendent des choix que l'on fait. En tout cas, je parle pour moi en tant que directeur de FRAC, on arrive avec un projet artistique et culturel, donc c'est sûr qu'on n'arrive pas avec un projet ouvert qui va d'un seul coup être sensible à tout ce qui se décline dans une ville ou dans une région, mais on arrive avec des a priori, une histoire, un parcours, des sensibilités, donc automatiquement ça rend les choses, pas en tout cas plus ou moins pertinentes, mais ça les classifie, ça les hiérarchise par rapport à un projet. Après, je pense que ça tient vraiment de la subjectivité, et c'est ce qui fait aussi l'intérêt des structures comme les FRAC et les centres d'art en France, c'est que ça repose en grande partie sur des choix artistiques et esthétiques qui sont défendus par des personnes, et qu'on a une grande liberté, que cette liberté-là, elle est intéressante parce qu'elle peut produire aussi une diversité d'expositions, de commandes, de productions d'une région à l'autre.
Brice Mathieu-Saint, vous voulez dire un mot là-dessus sur les hiérarchies dans l'art et la façon dont on peut déclarer qu'une œuvre d'art est pertinente ou pas ?
Est-ce que je veux dire quelque chose là-dessus ? Moi, je ne sais pas. Oui. Moi, je pense que c'est à toutes les époques, il y a eu des mélanges entre ces fameux termes de high and low qui sortent d'une expo qui a eu lieu au MoMA à New York il y a 25
90,
ans.
En 90.
Oui, il y a 20 ans, presque, 15 ans, oui. Avec 15 ans de retard, peut-être aussi, hein, parce que c'est quand même le pop art début des années 60. Bon. Mais à tous les siècles, il y a eu des remises en question comme ça, des hiérarchies qui sont faites. Moi, je pense que l'histoire de l'art, elle s'écrit. Il n'y a pas d'histoire de l'art figée, c'est-à-dire que chaque époque réinvente son histoire de l'art. C'est quelque chose qui est totalement subjectif. Pas entièrement, j'exagère un peu, mais je pense qu'il y a des peintres qui, par exemple, je pense à la peinture de genre hollandaise du XVIIe siècle, c'était pas bien vu, c'était pas très estimé, tout le monde avait des tableaux chez soi, aujourd'hui c'est dans les musées, c'était beaucoup moins considéré que ça l'est aujourd'hui, parce que ça parlait de scènes très très banales, très quotidiennes, des gens qui boivent, des gens qui fument, des gens qui mangent pas de la bouillabaisse mais qui mangent des huîtres, c'était considéré comme étant quelque chose d'un peu secondaire, d'un peu annexe, et aujourd'hui tout d'un coup c'est plutôt réévalué, donc je pense que l'histoire de l'art elle est réinventée par chaque époque. Et cette problématique qu'on croit liée au pop art et qui existe toujours aujourd'hui. Puis la preuve, c'est que vous en parlez du high, le fameux est-ce qui est en haut, est-ce qui est en bas. Bon, tout ça traverse. C'est pas le pop art qui l'a inventé. Ça traverse, je pense, tous les siècles de l'art, de la création artistique.
Marc, mais il semble que ce soit une question particulièrement vivante aujourd'hui, bon, de la part de toute façon de travaux d'artistes et notamment ceux dont parle Marc dans son livre. Alors Marc, tu fais l'exercice de commenter deux bouillabaisse, celle du Petit Nice à Malmousque et celle d'une table au sud sur le Vieux-Port comme des tableaux, comme des œuvres d'art. On apprend au passage que la bouillabaisse au Petit Nice correspond au prix de 23 entrées au MAC. Mais est-ce que, puisque tu consacres un chapitre aussi au culte olympien, est-ce que tu aurais pu faire cet exercice avec un match de foot, par exemple, c'est-à-dire commenter comme une œuvre d'art un match de foot, par exemple celui d'Olivier Liverpool là, qui a eu lieu il y a pas longtemps.
Ah oui, celui d'hier soir, j'aurais bien aimé le commenter. En plus, il avait tous les éléments pour être commenté, puisqu'il y a du suspense, un but refusé, une fin de match. Donc oui, la grande différence peut-être quand même entre commenter un match de foot à la manière de la façon dont on pourrait commenter une œuvre d'art et commenter les bouillabaisse comme je l'ai fait ou commenter toutes les œuvres, c'est que l'intention n'est pas la même malgré tout. Je pense que là, ce qui fait une œuvre d'art, enfin, je sais pas, on n'est pas là pour définir, on l'a dit, hein, d'ailleurs on a tous éludé ta question, tu as vu finalement, hein, sur les hiérarchies, etc. Donc on va pas trancher le débat aujourd'hui, mais c'est peut-être la rencontre entre une certaine intention et une certaine attention, je dirais. Alors c'est sûr qu'on peut interpréter n'importe quoi comme une œuvre d'art. Moi j'adore l'interprétation, j'ai comme ça une genre de tropisme herméneutique qui m'amène à interpréter tout et n'importe quoi. Mais je crois qu'à la fois c'est pas tout à fait la même chose d'interpréter quelque chose qui n'a pas pour but spécialement de se livrer à certaines interprétations comme un match de football, et d'interpréter, ben, par exemple, le travail de Pascal et Claude qui sont ici, qui, autour de l'Olympique de Marseille, qui avait une intention de poser des questions et de problématiser. Donc malgré tout, j'aurais pu, c'est vrai, faire l'exercice de style, de commenter n'importe quoi. Je veux dire, quand il y avait des travaux pour le tramway, là, sur la Canebière, à un moment, la Canebière était réduite, on n'avait plus que 2 mètres de large pour marcher, là, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et je trouvais que ça, c'était une belle œuvre d'art aussi, parce que ça obligeait les gens à se croiser, à se regarder. Et je dis, bon, là, c'est vraiment... Alors, j'ai failli en parler dans le livre aussi. Je me suis dit, malgré tout, là, c'est pousser peut-être le délire interprétatif un peu loin. Et c'est peut-être là, m'instituer moi-même un artiste qui va décider que la ville est une œuvre. Donc, bon, je ne l'ai pas fait, finalement, tu vois. Mais par contre, j'aimerais bien aussi que, ben, justement, que Pascal et Claude livrent leurs sentiments sur ces questions. Puisque là, finalement, on confisque un peu la parole. Et oui, c'est bien d'entendre les artistes aussi sur ces questions.
Donc, Pascal et Claude, qui sont cités longuement dans le livre de Mars Rosmi. Vous êtes intéressé à la culture entre guillemets foot à Marseille à l'occasion du projet des costumes pour Marseille. Est-ce que vous pouvez rappeler votre démarche, quand c'était passé, un peu à micro chacun, voilà.
Moi, je voulais juste rappeler que regarder un match de foot et le commenter, j'ai des souvenirs de Joe Corbeau qui faisait ça en direct, et c'est une performance qui
sur Radio Grenouille, je rappelle,
voilà, qui était vraiment assez exceptionnelle. Donc voilà, un commentaire de match de foot peut aussi aller au-delà de ce qu'on entend sur les ondes courtes et longues, comme culture haute et culture basse.
Mais là aussi, c'est la performance de Joe Corbeau avec cet objet-là en ligne de mire. Donc c'est effectivement pas le football qui lui-même se pose comme un objet d'art ou... Mais il est possible de regarder le football avec cette acuité-là, oui, bien sûr.
Donc, des costumes pour Marseille, c'est toi, TKRL, qui rappelle un peu l'histoire.
Oh là là, c'est vieux.
Pascal Stott.
Il y a longtemps. Il était une fois. Non, c'était dans les années 90. C'était une proposition du FRAC qui nous avait proposé, donc à tous les deux, puisqu'on est deux artistes qui travaillons ensemble, de faire une exposition, de proposer une exposition dans le cadre des expos du FRAC. Et on avait réfléchi sur la question, en fait, que le FRAC est un fonds, donc réunit des œuvres et effectivement les tient à disposition aussi, d'une certaine manière, du public, sous forme d'exposition, etc. Et donc, nous, on avait décidé de réfléchir à que mettre, j'allais dire, sur la table, comme objet de regard, comme objet de réflexion, pour essayer de le proposer à des tas de gens très différents, des artistes, des gens. Et donc, il est vrai qu'habitant à Marseille et ayant cette ville et sa façon d'être sous les yeux, nous a paru que, effectivement, réfléchir à des costumes pour Marseille, quelle que soit l'idée ou la définition du mot costume qu'on pouvait fabriquer avec ça, était un bel objet de regard et d'invitation. Donc l'idée, c'était d'inviter des gens.
Pour en revenir tout à l'heure, par exemple, à Jo Corbeau, on avait proposé ça à des gens qui avaient des pratiques. C'est-à-dire que, par exemple, les supporters de l'OM à Marseille notamment ont une pratique du stade, une pratique de fabrication d'objets, ils ont des ateliers où ils font ça, donc c'est pas une idée à chaque fois on proposait ça soit à des stylistes soit à des gens qui avaient une pratique, ce truc de pratique il est important.
C'était offert à tout le monde ou à n'importe qui, mais effectivement nous on est allé demander à des gens, c'était l'occasion aussi de bosser avec des gens dont nous on reconnaissait la pratique, mais effectivement pas forcément en tant qu'artiste. Les supporters ont regardé ce qu'ils faisaient, on voyait leur tifo, on trouvait ça assez fabuleux, mais pas, enfin à aucun moment il était question de dire oh ben, ça c'est de l'art, c'est du tifo. Par contre, nous, en tant qu'artistes, ce qui nous intéressait, c'était de voir comment nous, on pouvait trouver un système d'échange, des choses à échanger entre, par exemple, des supporters qui faisaient des tifos et nous, des artistes. Comment est-ce que on pouvait ne pas leur... par exemple, ne pas rapter ce qu'ils faisaient comme une pratique, justement, belle et intéressante, mais essayer de trouver quelque chose à leur offrir en échange. Donc, tout le travail de Décostume pour Marseille, ça a un peu été d'essayer de s'adapter. C'est pas une idée d'offre et de demande, mais c'est une idée d'échange. Qu'est-ce qu'on pouvait échanger ? Bon, avec les supporters, ça a été déjà qu'on a rencontré des groupes de supporters, qu'on a travaillé avec l'un d'entre eux, qui s'appelait les T-Birds, et qu'en fait, on a essayé de se mettre d'accord ensemble sur un terrain d'entente. On a travaillé sur des drapeaux. Ces drapeaux, on les a fabriqués, dessinés avec eux, d'après des idées à eux, des idées à nous, et on les a à la fois exécutés pour le stade et à la fois pour le FRAC. Donc l'idée, c'était aussi ça, arriver à ce que dans cette histoire-là, où les histoires de majeurs et de mineurs sont toujours au milieu, comment on trouve à simplement faire une plateforme où on puisse échanger quelque chose.
Marc rappelle dans son livre que la réception de ce travail a posé problème.
C'est toujours pareil, enfin, c'est toujours difficile puisque il y a des territoires, il y a des secteurs et que forcément, à partir du moment où le projet se faisait vraiment, se construisait en se faisant et qu'on essayait, nous, d'être suffisamment clair dans la proposition pour ne pas avoir à faire de censure, hein, d'une certaine manière, à choisir finalement qui se proposait, forcément, il y a eu des moments où c'était un peu, il y avait des frottements. Notamment, il est vrai que dans les années 90, faire un travail avec des supporters, c'était entre autres choses, hein, ou faire un travail qui avait à voir avec la ville et avec ce qui s'y passait, avait forcément plus ou moins à voir avec de l'opportunisme, du populisme, du je sais plus quoi, isme, du... voilà.
On sait que tout au cours de l'histoire de l'art, les modes de production étaient de plus en plus déterminants sur la façon, sur les esthétiques produites, sur les œuvres produites, etc. Là, c'était un mode de production qui essayait d'associer donc des supporters de foot à votre travail, de travailler ensemble. C'était très très important pour vous, très déterminant pour votre démarche. Cette façon de travailler dans du collectif.
Oui, bien sûr, puisque en fait on a créé à cette occasion, enfin la première pierre, on va dire, de cette expo, après que la proposition de faire une expo nous soit arrivée, c'était vraiment de créer une association qui s'est appelée donc Décostume pour Marseille et dont le but était de créer une œuvre collective. Donc c'était aussi ça vient, je crois, très simplement du fait qu'on travaille à deux, donc que forcément le travail qu'on fait, on le met entre nous deux, et qu'à partir du moment où on travaille entre, il peut y avoir effectivement plusieurs pôles, et que l'idée, c'est vraiment que le travail soit cette chose qui est entre plusieurs personnes. Donc le collectif va un peu de soi. Mais je crois, comme disait, je ne sais plus si c'est Brice ou Marc tout à l'heure, on est fait de l'époque dans laquelle on vit, des époques en plus anciennes, de ce qu'ont fait des artistes, de ce qu'on a vu dans la rue. On est fait d'énormément de collectifs.
Mais tout ça a fait bouger la place de l'artiste, la signature de l'artiste, etc. Comme dans Marie Mira, d'ailleurs, Guy André, est-ce que tu as un micro près de toi ? On rappelait tout à l'heure que c'est aussi un mode de production collectif, toutes ces choses qu'on voit dans Marie Mira, qui est juste en dessous du Napoléon Bonaparte, ce jeudi 4 octobre 2007. Quel est ton rôle, toi, dans ce collectif ?
C'est un projet qui a commencé il y a assez longtemps, il y a une douzaine d'années, avec Jean-Paul Curnier, donc un ami de longue date, et qui avait il est né à Arles, et donc a vécu beaucoup à Bauduc, donc dans les cabanons de Bauduc, et en fait a pratiqué les cabanonniers, c'est-à-dire une sorte d'art comme ça d'en tirer une sorte de bien-être à partir de choses. Rejeter des sols de riz, des choses comme ça. C'est-à-dire quelque chose à prix modeste, de fabriquer une sorte de... Oui, un peu de luxure, parce qu'il me racontait, par exemple, un jour, il était invité dans un cabanon, et il y avait ce type qui était affalé sur un lit, qui faisait à peu près trois places.
Oui, il a dit luxure, oui.
Affalé sur un lit, on attend la suite.
Donc, il était sur un lit qui faisait au moins... 4 places, et ce type était comme ça, avec 2 femmes de chaque côté, une sorte de très opulente, et sur le mur à l'arrière, il y avait un conteneur, un genre de cubiténaire, avec un tuyau en plastique et un robinet au bout, qui passait aux filles à côté de lui pour boire. Donc il y avait cette histoire de cette sorte d'énorme bien-être, formidable bien-être. Et donc c'est parti de ça, c'est-à-dire une pratique comme ça, un art de vivre avec ces choses de peu. Et moi je viens de l'île Maurice, et donc je lui racontais comment ça, je veux dire, les cases créoles de l'île Maurice, comment les gens adaptaient selon les circonstances des bouts de ci, des bouts de ça pour faire des poignées de porte, les fenêtres, etc. Et finalement quand on vient visiter ces lieux au bout de 2-3 ans, la transformation dû aux circonstances de la vie, fait qu'à un moment donné, ça prend des allures absolument extrêmement fantasques. Et donc, avec lui, on a décidé de partir à l'île Maurice pour faire une résidence dans les îles. C'était formidable, du luxe, là. et d'aller rencontrer ce qu'on appelait, nous, à l'époque, des artistes de l'ordinaire et de la fantaisie. C'est-à-dire des gens qui n'étaient pas forcément... qui se considéraient pas forcément comme des artistes, mais qui avaient une fabrication, une sorte de détermination dans la fabrication de la vie de tous les jours, et avec énormément de fantaisie, beaucoup de espèce de relief comme ça, d'une coquetterie féroce, quoi. Et donc on a rencontré un certain nombre de personnes en se perdant dans les rues, à l'époque. Je faisais des expos dans des galeries, les musées, des choses comme ça. Et avec Gaëtan et Lise, qui sont là d'ailleurs, non, ils sont partis. Il se trouvait que Lise, elle ramassait des bouteilles en plastique après les pique-niques sur les plages, elle fabriquait des bouquets de fleurs avec. Elle n'avait pas d'autres moyens, elle pouvait pas acheter du vert, du bleu, etc. Donc elle faisait du vernis à ongles. Et donc une sorte de pratique comme ça extrêmement... avec des outils modestes, mais en fait qui étaient extrêmement luxuriants, exubérants, qu'elle offrait à son voisinage, etc. Un espèce de rapport extrêmement luxuriant. Et quand on rentrait chez elle, dans sa maison...
Tu t'éloignes un peu du micro, là.
Je m'éloigne du micro. C'est l'exubérance qui me... Voilà, qui me...
Et donc, quel est ton rôle ?
Et donc, en fait... juste pour dire que, en fait, avec toutes ces personnes, on a rencontré 5 personnes, et à un moment donné, comme il y en avait un qui était maçon, et moi, je pensais qu'on allait faire une installation dans une galerie à l'époque, donc il y a 12 ans, à l'île Maurice. Il y avait un maçon, et il disait, avec tous les gens que tu as rencontrés, on devrait faire une maison. Je dis, non, on ne va pas faire une maison. C'était une blague, tu vois, les blagues qu'on fait souvent quand on mange, quand on boit un peu, voilà, on raconte des choses. Et en fait, c'était une sorte de mot d'esprit, et finalement, ce mot d'esprit est devenu une sorte de réalité. On a fabriqué une maison. Et en fait, l'idée, c'est s'il y a une idée, c'est de n'avoir pas d'idée. C'est-à-dire de rencontrer des gens sans idée du tout, et avec ces sortes d'excentriques populaires, de faire un bout de chemin et de travailler avec eux sur un temps donné. Donc là, c'était sur un an et demi. Et donc, avec des allées-venues entre ici et l'île Maurice, pêcher, boire, manger. Et à un moment donné, quelque chose qui se dessine au niveau d'une sorte d'énergie commun à la fabrication d'une peut-être un bout d'élégance, une sorte de bout d'élégance pour ajouter quelque chose dans la vie pour pouvoir exister dedans, quoi. Voilà. Donc à un moment donné, donc ce collectif se constitue et c'est dans ce collectif que des idées se partagent et vient un peu par nécessité. Les choses viennent parce que c'est le bon moment, ça se raconte au bon moment.
Oui, et donc dans ton collectif, dans ce collectif de Marie Mira, quel est ton rôle à toi ? Tu es chef de projet, tu es l'artiste de Marie Mira,
je suis artiste, mais je veux dire, en fait...
Marie Mira, c'est pas signé Guy-André Lagesse ?
Non, Marie Mira, c'est un certain nombre de personnes, et en fait, à chaque fois qu'on va dans une nouvelle ville, il y a un nouveau collectif qui se forme, et donc, au bout d'un moment, effectivement, là, on a travaillé avec peut-être 17, 20, une vingtaine de personnes. Et à chaque fois, effectivement, je fais le lien entre ces différents lieux. Donc, en fait, je raconte les histoires de ce qu'il y avait avant et en rencontrer de nouvelles personnes, parce qu'on réinstalle à chaque fois ce qui a existé avant. Ouais. On rencontre des nouvelles personnes et il y a une nouvelle étape qui se crée. Donc, en fait, je suis un facilitateur. Voilà. Une sorte d'artiste facilitateur, si tu veux.
Celui qui fait le lien, ouais. Brice Mathiessen, parce que je sens que l'heure s'approche où Brice Mathiessen va partir. Donc, Guy-André a rappelé que cette histoire de Marie Mira, ça venait aussi des cabanons de Bauduc. Alors là, Marie Mira s'est installée là, tout ça. Si c'était installé à Bauduc, au bout de 10 ans, bah, ça aurait été pété par les bulldozers, tout ça. Ça vient d'un esprit, vous racontez dans votre livre Marie Mira, que l'esprit des cabanons de Bauduc habite cette installation de Marie Mira. Mais il se trouve que les cabanons de Bauduc ont été détruits parce que c'est devenu insupportable pour l'ordre, le pouvoir, tout ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ça et nous dire c'est quoi qui est insupportable là-dedans
pour le... Moi, je ne suis pas de spécialiste de l'histoire des cabanons de Bauduc. Hein. Je pense que, par exemple, Guy serait plus apte à raconter ça. Mais...
Oh, vous le racontez bien dans votre livre.
Oui, mais je pense que ce qui était insupportable, c'était que des gens... d'une certaine manière, s'organise de manière plus ou moins informelle, sans qu'il y ait de hiérarchie, sans qu'il y ait de décideur ou de chef de projet, pour reprendre votre terme, et prennent en main leur loisir, à l'écart de toute forme d'organisation préconçue, préétablie, et à l'écart, oui, de toute consommation aussi, et que ça se fasse dans une espèce de pauvreté financière, mais de grand luxe, pour reprendre un des termes de la trilogie, le luxe, la luxure et la luxuriance, de grand luxe de vie. Et qu'il y ait là une invention qui échappe absolument à tous les systèmes organisés pour définir ce que chaque individu doit faire à chaque instant de sa vie, quel est le rapport entre le travail et le loisir, quel est le rapport entre le bien-être et l'argent. Ceux qui ont plus d'argent, normalement, devraient avoir accès à plus de loisirs et à plus de bien-être. Et là, tout d'un coup, il y a une sorte d'exception qui s'est produite et qui a fait que, je crois que c'est la préfecture, mais il y a aussi le Conservatoire du Littoral, qui très paradoxalement aurait dû conserver en l'état et qui a beaucoup œuvré de manière à ce que ça soit démoli. Alors là, on tombe dans des arcanes de l'administration française ou des absurdités des décideurs, comme on dit, et qui font qu'au lieu de conserver et de, non pas de promouvoir, non pas de prendre en charge, parce qu'ils n'ont pas besoin, ils n'avaient pas besoin, je mets ça à l'imparfait, hein, ils n'avaient pas besoin qu'on les prenne en charge, ils se prenaient très très bien en charge, non merci, ça va, très bien, on ne veut pas de Ikea, on ne veut pas de Carrefour, on ne veut pas de casino, on ne veut pas d'agence de voyage, ça va très bien, merci. Le Conservatoire du Littoral aurait dû protéger, je ne sais pas si c'est protégé, mais en tout cas, au moins, comme son nom l'indique, conserver en l'état et ne pas s'en occuper. Or, le Conservatoire du Littoral, à ma connaissance, a été quand même la cheville ouvrière de la destruction, avec évidemment la préfecture qui, depuis des années, essayait de supprimer cette chose-là. Alors, je ne sais pas sous quel prétexte, mais je pense que l'idée principale, je pense que tous les prétextes ont été invoqués, mais l'idée, à mon avis, fondamentale à ça, c'est que c'était inadmissible qu'il y ait des gens qui s'organisent sans conflit dans une zone totalement inintéressante, ni pour l'industrie, ni pour la pêche, ni pour les loisirs, Et donc, on s'aperçoit bien, puisque aujourd'hui, c'est toujours en l'état d'être démoli, c'est toujours démoli. Personne n'a été remplacé ça par des grands hôtels ou des campings. Il y a bien cette idée que c'était insupportable à des gens qui sont les décideurs.
Donc c'est une proposition de mode de vie un peu comme étant un projet politique et c'est qui devient insupportable donc dans une société où tout est à l'envers de ça. Est-ce que pour vous, Marie Mira, ça serait ce que vous venez de formuler là, ça serait la dimension politique du projet Marie Mira par exemple?
Je ne sais pas si c'est la dimension politique. Je pense que c'est un travail qui nous fait réfléchir au sens le plus simple. Du mot politique, c'est-à-dire ce qui nous touche à la ville, ce qui touche à notre mode d'être dans une ville. Marie Mira, c'est toujours fait dans un port, donc dans une ville. Donc ça touche à notre mode de vie, à notre mode d'appréhension dans la ville. Je pense que le projet, par exemple, du tuning d'appartement, là, c'est aussi la dimension politique, elle est très, très évidente. C'est-à-dire au lieu de rentrer dans un cycle de j'achète, je jette et je rachète, on se trouve dans un état d'esprit donne d'autres possibilités, non pas simplement de rénovation, mais de prise en compte par les individus eux-mêmes de d'une dimension de leur vie, à savoir de l'endroit où ils vivent, tout simplement. Bon, je pense que plus que ce qui est visible ici, et pourtant Dieu sait si c'est coloré et visible, et si ça occupe la rétine, je pense que, comme disait Guy André, c'est un état d'esprit plus que quelque chose qui, évidemment, rien ne fonctionne, il n'y a rien de fonctionnel. Et en même temps, tout peut, avec une toute petite modification, devenir fonctionnel, devenir induire des attitudes qui sont très différentes. Et qui deviennent, pour le coup, subversives, pas au sens des années 70, mais plutôt une espèce de luxure, ou de luxuriance qui prend en charge tout naturellement, sans manifeste, un aspect politique.
Alors, Marie Mira, c'est l'esprit cabanon. Olivier Bedu, c'est le cabanon vertical. Est-ce que tu te sens proche, bonjour. Est-ce que tu te sens proche...
C'est le jeune radio, ça.
Merci, Brice Mathieu-San, et bonjour à votre fille. Donc. Est-ce que tu te sens proche de cette démarche et est-ce que tu peux nous expliquer, si c'est le cas, comment toi tu rejoues ça dans tes projets architecturaux?
C'est vrai que de toute façon, Marie Mira, c'est quelque chose que j'ai découvert à l'époque de leur intervention à Paris. Et j'étais encore étudiant. C'est vrai que ça a été très vite dans mon imaginaire, et comme quelque chose qui était là, dans les choses qui pouvaient m'intéresser et qui me plaisait, quoi. Après, les enjeux sont pas forcément les mêmes sur le regard porté aux choses. C'est-à-dire que là, on est sur la manière de faire, de produire un objet, enfin de produire des objets, de produire des imaginaires à partir de groupes et de manières de savoir-faire divers et variés, et de créer un... Voilà, une image fantasque comme ça de ce que peut être un peu une vie autogérée. Après, moi, là où ça m'intéresse aussi, là, je pense qu'on est plus dans le croisement, c'est sur l'idée du vernaculaire, c'est-à-dire de la capacité, le laisser-faire, donc dont on parlait aussi avec Bauduc. Je ne sais pas si Bauduc devrait être protégé par le littoral, et si ça serait une bonne chose. Je pense que de toute façon, toutes ces choses sont là pour être aussi éphémère, et en même temps il y aura toujours des moments où on pourra les refaire, et c'est le côté le naturel, l'informel des choses qui fait que ça a une valeur. Après, aller à Bauduc pour faire le tour avec un car et faire coucou aux autochtones et aux jolis doudingues, ça, je ne sais pas si ça a beaucoup d'intérêt. Donc voilà, Bauduc disparaîtra peut-être, il y aura sans doute une partie qui va être conservée. Mais...
Oh bah ça a déjà été dégagé. Ouais.
Oui, mais là, aujourd'hui, il y a des endroits, parce que comme ce n'est pas les mêmes propriétaires, les terrains qui sont sur les salins de Giraud vont sans doute être conservés, alors que ceux qui sont sur le littoral ne seront pas conservés pour ne pas donner d'exemple ou de jurisprudence à d'autres cas aussi.
Alors, est-ce que dans cet intérêt pour le vernaculaire, dans ton travail, est-ce que c'est une façon aussi de combiner ce dont on parle depuis le début en fil rouge, c'est-à-dire la haute architecture avec la basse architecture, si j'ose le transfert?
Oui, il y a toujours cette question du aussi qui peut se la signature et la petite intervention qui peut être faite à droite à gauche. C'est vrai que de toute façon ce regard sur la ville, pensée et urbanisée, c'est une chose. Et nous, ce qui nous intéresse dans le cabanon vertical, c'est la part d'appropriation, l'architecture pensée devient une espèce de forme de relief naturel ou imposé, et sur lequel le vernaculaire vient interpréter une géographie existante, une façade d'immeuble ou quelque chose, et vient y mettre un usage propre, une intelligence du lieu et produire quelque chose qui lui est propre. Moi, c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup sur notre travail d'appropriation de barres d'immeubles au Vietnam qui ont su s'imposer aussi de manière collective pour répondre à des besoins, et qui ont su venir greffer des objets sur les façades et les recouvrir jusqu'à ce qu'on ne les reconnaisse plus et qu'on les oublie totalement. Et c'est l'idée du collectif, c'est des moments où les pouvoirs sont peut-être plus faibles que d'autres, et que le collectif et l'individu par son groupe arrive à créer des groupes de pression et à reprendre possession de choses, et peut-être qu'il va les perdre un moment ou un autre, quoi. Donc c'est vrai que voilà, c'est l'interprétation d'un lieu et l'envie de faire qui nous plaît dans tout ça, quoi.
Marc Rosmini, le défi au pouvoir, à l'ordre, c'est l'une des dimensions qui habite fortement cette ville. Et toi, dans les questions que tu poses à l'intérieur de ce livre, tu vas voir du côté des artistes Bite Boys, un peu, qui reprennent à leur compte cette dimension marseillaise pour la rejouer dans leur travail. Tu peux nous dire un peu la façon, les regards que tu as portés sur les travaux de Marc Bouchereau, par exemple, ou Hervé Paraponoiris, ou André Surian.
Jean-Jacques Surian. Ouais.
Jean-Jacques Surian, pardon.
Non, c'est juste pour lui. Moi, ce qui m'intéressait, c'est ce qui est un petit peu commun à toutes les œuvres dont on parle aujourd'hui, c'est justement ce fort ancrage dans la réalité, dans la vie. Et donc, effectivement, en faisant le tour des mythes et des légendes et des clichés qui tournent autour de Marseille, je ne pouvais pas échapper à cette dimension. Voilà le chapitre que j'ai appelé le style des Bad Boys de Marseille, quoi. Ce côté ville rebelle, ce jeu avec la norme. Et je crois que c'est quand même aussi une des fonctions de l'art. On disait tout à l'heure, qu'est-ce que l'art? Bon, je crois que c'est aussi une des fonctions de l'art de nous interroger sur le rapport à la norme, sur le rapport au droit, sur le rapport à la loi. Donc j'ai eu envie, effectivement, de réfléchir sur ces artistes qui jouent sans cesse avec cette norme. On parlait de Bouchereau. Bon, alors tout à l'heure, Olivier Bedu parlait de la possibilité d'organiser des cars qui révisitaient Bauduc. Ben, on pourrait les attaquer, justement, comme Marc Bouchereau avait fait au train du panier. Bon, depuis cette attaque, je ne regarde plus ce train pareil. Et je trouve que c'est un événement qui s'est inscrit aussi dans un imaginaire avant lui. C'est ce que j'essaie de montrer, un vieil imaginaire de Marseille, et qui a aussi créé un nouvel imaginaire. Donc ça, je pense que c'est des événements qui sont importants. Et puis justement, jouer avec ce lien ténu entre la réalité et l'art, c'était aussi pour moi quand même une manière de répondre, en fait, à une difficulté qui m'est apparue. Moi, je fréquente beaucoup de gens qui détestent l'art contemporain. Voilà, autour de moi, dans ma famille, des copains. Pour eux, c'est vraiment un univers complètement opaque, un univers de snobs qui se foutent de leur gueule.
C'est-à-dire qu'ils détestent l'art contemporain en bloc.
Voilà, exactement. Voilà. Et ils ont vraiment l'impression d'être pris pour des imbéciles. Et je pense que cette parole-là, il faut l'entendre. Voilà, il faut pas la traiter par le mépris. Il faut l'entendre, il faut l'écouter. Et mon livre, à la base, c'est un peu une réponse à ça aussi. C'est une manière de leur montrer que finalement, peut-être que ce qui les dérange dans l'art contemporain, c'est moins qu'il est très abstrait, mais au contraire qu'il est très concret, qu'il parle d'eux, qu'il parle de leur rapport aux valeurs, etc. Bon, il y a Sylvie Reynaud qui est avec nous aussi, donc je voudrais...
Oh, je vais la faire parler après, mais avant...
Mais juste une petite anecdote. Non, vas-y.
Elle est longue, l'anecdote ?
3 minutes.
Vas-y, on est à combien là-bas ? 50 ? Non, laisse tomber l'anecdote. Pascal Neveu, Marc Bouchereau, Marc Bouchereau qui attaque le petit train au panier, c'est soutenu par le FRAC à l'époque, c'était pas vous, hein, mais c'était le FRAC. Hervé Paraponaris qui fait tout ce que je vous ai volé au MAC, c'est soutenu par l'institution, c'est-à-dire que des actions qui ouvertement se mettent en rébellion contre la loi, contre l'ordre, et qui se mettent hors la loi, sont soutenues par l'institution. Quelle réflexion ça vous inspire ?
Bah, que c'était absolument génial de l'institution de s'ouvrir à ce type de soutien, justement, parce que c'est pas forcément super évident d'avoir à être dans une position d'ouverture, de curiosité, et à soutenir des artistes comme Hervé Paraponaris ou Marc Bouchereau d'un seul coup, qui viennent justement questionner l'institution elle-même et qui font que l'institution qu'ils questionnent devient leur partenaire sur des projets de détournement, d'action urbaine ou autre. Donc non, je trouve que là, à ce moment-là, l'institution, on a toujours l'impression que l'institution, c'est une sorte de chose sacralisée, toute puissante, avec 300 fonctionnaires derrière et des millions d'euros sous la main, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc c'est vrai qu'on a plutôt, dans ce type de structure, à jouer une proximité avec les artistes et effectivement à essayer à se poser la question tous les jours de toutes ces personnes qui effectivement questionnent l'art contemporain et nous regardent avec des yeux exorbités en se demandant bien pourquoi on soutient tel ou tel artiste, telle pratique et qui n'y comprennent absolument rien. Donc c'est vrai qu'on a plutôt comme mission et intérêt à rendre curieux le plus grand nombre à ces pratiques artistiques, et le type d'intervention de Marc Bouchereau ne peut que favoriser cette rencontre entre un public qui d'un seul coup découvre via l'attaque du petit train un acte artistique et en même temps sans imaginer trois quarts de seconde que c'est un artiste qui en est à l'origine. Donc non, moi je trouve que Eric à l'époque avait très bien fait de soutenir ce type de démarche.
Donc, pour parler de Hervé Paraponaris, tout ce que je vous ai volé, quand on vole et qu'on est un voleur, on doit aller en prison. Quand on vole et qu'on est un artiste, tout va bien.
Bah, tout va bien, sauf qu'aujourd'hui, ni la pièce de Marc Bouchereau, ni la pièce d'Hervé Paraponaris ne peuvent circuler pour ces raisons-là, justement. Parce qu'on n'a pas réglé, l'institution n'a pas réglé la circulation, la diffusion de ces pièces, et qu'effectivement, le soutien s'est opéré à un moment donné, mais l'institution n'a pas évolué plus que ça par rapport à ses pièces, et on reste aujourd'hui figé sur une dynamique patrimoniale de conservation, alors que ces pièces-là, justement, elles réclament des réactivations, elles réclament à être complétées, et ça, c'est un questionnement qui est encore complètement ouvert.
Merci. Marc, donc tu parlais de Bad Boys et tu as envoyé sur Sylvie Reynaud, qui est donc Bad Girl, sûrement. Sylvie Reynaud, vous êtes dans quel chapitre dans le livre de Marc Rosmini ? Bad Boys ?
Non, je suis dans le chapitre football.
Il paraît, on voit une photo de Richard Bakhi avec une mitraillette. Il semble que vous aimiez beaucoup les mitraillettes. Vous.
Oui, j'ai fait aussi des mitraillettes. Mais contrairement à Richard Bakhi, qui emploie des matériaux de récupération et des matériaux... Oui, de récupération. Moi, je travaille à partir d'une matière bien précise, à partir du carton ondulé. Je ne travaille pas dans la récupération.
Pourquoi ? Pourquoi le carton ondulé ?
Parce que c'était au départ un souci d'économie. Et après, c'est devenu un langage plastique. Mais au départ, c'était parce que ça coûtait pas cher. Et j'ai commencé à reconstruire le monde en carton parce que ça ne coûtait pas cher. Et après, j'ai constitué mon propre langage. Voilà.
Et donc maintenant, votre projet, c'est la cartonisation du monde, c'est ça ?
Oui, non, pas tout à fait. Non, j'ai pas de projet. J'ai pas de projet. Mais non, mais là, dans le livre, c'est marrant parce que justement, j'apparais avec une pièce où il n'y a pas de carton.
Ouais, c'est un ballon de foot piqué de seringue. Ouais. Vous pouvez nous raconter
En fait, c'est parti d'une expo qu'on m'a proposée à la Vieille Charité, qui devait tourner autour de la Vieille Charité. Or, j'avais un atelier aux ateliers de Lorette, qui est une place, enfin qui est dans la Vieille Charité. Et par ma fenêtre, je voyais sur la place les petits frères qui jouaient au football et les grands frères qui dealaient. Et quand les grands frères se faisaient arrêter par les flics, les petits frères arrêtaient de jouer au football et dealaient à la place des grands frères. Et ma pièce est partie de là. Et ce qui est très marrant, c'est que ça s'est fait l'année où il y a eu le mondial. Moi, je ne m'intéressais pas du tout au mondial. Enfin, je m'en fichais un peu, pour tout dire. Et c'est tombé par hasard. Et Marc Rosmini a eu une lecture de ma pièce totalement différente, bien qu'il parle aussi de cette dimension, de la drogue. Et voilà, c'est tout.
Bon, très bien. Alors, je suis désolé, je ne poursuis pas plus loin parce qu'on arrive vite à la fin d'une émission sur Radio Grenouille et là, on arrive à la fin. Donc, Marc, ce qui est embêtant, c'est qu'on n'aura pas eu le temps de parler de Richard Bacquier qui pourtant ouvre et finit ton livre. Ça finit sur l'aventure plus loin qui a été détruit devant la Cité des Cèdres. Donc, l'échec d'un projet artistique qui cherchait peut-être à combiner l'art avec la vie.
Oui, ça c'est central à l'histoire de l'aventure, elle hante tout mon livre. Bon, d'abord l'œuvre de Bacquier aussi, et c'est vrai ce qui est intéressant c'est que Bacquier c'est quelqu'un qui a essayé de travailler justement en s'enracinant dans une certaine dimension populaire, etc. et dont l'œuvre a été totalement rejetée par cette population-là, et donc ça doit nous interroger. Et je pense que là, c'est une réflexion aussi sur la médiation, sur l'accès à l'art. C'est pour ça que, par exemple, la sculpture de Sylvie, moi, j'ai fait une expérience. Moi, je travaillais en classe avec des élèves qui sont de tous les milieux et ils ont beaucoup de préjugés. C'est intéressant de travailler avec les élèves de classe de terminale. Ils ont beaucoup de préjugés sur l'art. Notamment, il y a des classes qui te disent qu'un artiste, c'est vraiment quelqu'un qui fait la peinture, qui doit savoir peindre, on doit pouvoir reconnaître ce qu'il peint, etc. Et donc, moi, je les ai fait travailler sur une photo de la sculpture de Sylvie Reynaud, justement. Alors, a priori, réaction hostile, tu vois. Bon, ils me disent, qu'est-ce que c'est ce truc? Moi, je sais le faire, un carton, un ballon de foot, n'importe quoi. J'aurais dit, bon, bah, écoutez, d'accord, mais on va quand même essayer de trouver un sens. Et donc, je les ai fait travailler, eux, comme interprètes, quoi. Et après, ça a complètement modifié leur regard, en fait, de leur donner ces clés, enfin, qu'ils ont trouvées tout seuls, en plus. C'est ça qui est génial. Hein. Moi, je n'aurais pas donné grand-chose. J'aurais juste dit, essayez de faire l'hypothèse que derrière, il y a autre chose, que derrière, il y a un sens. Et ils l'ont trouvé. Et en fait, après, il m'a dit, ouais, non, finalement, vous avez raison, ça peut être intéressant. Donc, cette idée de la médiation, bon, c'est ce qui a peut-être manqué dans l'aventure de Bacquier. Moi, j'ai travaillé, en plus, à l'époque, j'étais un site dans le quartier à Malpassé. Et effectivement, ce décalage-là, il est très violent. Alors, un des objectifs du livre, pour moi, c'est justement peut-être de casser cette frontière aussi entre le monde de l'art, entre guillemets, et puis le monde des gens pour qui l'art contemporain, c'est n'importe quoi, en essayant, voilà, de prendre des biais, de prendre le football, de prendre la cuisine, de prendre les bad boys, et de voir peut-être ce que ça pourra donner, si ça pourra peut-être remettre en cause à la fois les préjugés de ceux qui sont du côté de l'art savant et puis aussi peut-être les préjugés de ceux qui sont de la culture populaire, parce qu'il y en a des deux côtés.
Et c'est un livre aussi qui mentionne des projets artistiques qui ont été avortés ou qui n'ont toujours pas vu le jour, alors peut-être à cause de leur dimension de subversion. Le monument phare des pas perdus qui n'arrive pas à faire exister, le monument à la porte d'Aix de Stott et Kerel qui consistait à remplacer les statues qui sont sur la porte d'Aix par des joueurs de foot et ou entre autres le projet de Jean-Christophe Nourisson sur le parc Bellevue. Il parle aussi du musée César puis du MUCEM là qui devrait être pas loin, mais on ne sait pas. Et d'ailleurs il a un projet à partir de son bouquin pour le MUCEM si l'équipe de préfiguration nous entend. Le livre de Marc Rosmini est sorti aux éditions Jeanne Lafitte, on peut le trouver facilement.
Bon, on le trouve déjà chez Jeanne Lafitte,
on et le puis trouve
dans, à la FNAC, je pense, enfin, dans pas mal de librairies. Ouais.
Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Je vais très vite, toujours à la fin, c'est un peu embêtant, mais bon, pour pas dépasser l'horaire. Je rappelle juste que Marie Mira, ça continue jusqu'à fin octobre. Et donc, vous pouvez venir, là, c'est dimanche 7 octobre, cet après-midi, c'est ouvert tout ça. Et puis, il y a d'autres choses qui sont ouvertes cet après-midi, sont les ateliers d'artistes. Donc, si on vous a donné envie de vous frotter un peu à l'art contemporain, il y a une trentaine d'ateliers d'artistes qui sont ouverts au public tout ce week-end et encore aujourd'hui dimanche. Merci à tous, j'oublie rien. Merci à Olivier Gâteau pour la technique et à bientôt sur la Grenouille.